Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 9 octobre 2024. Au Mozambique, élection générale sans suspense, mais sous tension. Au Kenya, le Sénat lance l'examen de la destitution du vice-président. Consternation dans la communauté africaine du Québec après la mort d'une étudiante congolaise disparue depuis une semaine.
Nous avons demandé aux autorités compétentes du Canada de pouvoir procéder à l'autopsie, c'est ce qui est en train d'être fait.
Josca Kabongo Ngoy, ambassadeur de la RDC au Canada, nous donnera des précisions dans la partie magazine. Entretien téléphonique aujourd'hui entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu, alors qu'Israël poursuit la guerre contre le Hezbollah et le Hamas. Dans le sud-est des États-Unis, des millions de personnes sont sur les routes pour échapper à l'ouragan Milton qui s'annonce destructeur. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Au Burkina Faso, l'autorité de régulation des médias a décidé de suspendre la Voix de l'Amérique pendant 3 mois après la diffusion de propos, je cite, de nature à saper le moral des forces engagées dans la lutte anti-djihadiste. VOA a donc réagi suite à cette suspension. Conformément à une ordonnance des autorités du Faso, la Voix de l'Amérique a fermé son émetteur FM à Ouagadougou. Bien que VOA respecte le cadre réglementaire du Burkina Faso, la VOA ne se reconnaît pas dans les affirmations du Conseil supérieur de la communication selon lesquelles les déclarations faites dans notre programme ont toléré ou justifié le terrorisme ou que nos reportages visaient à démoraliser le peuple et les forces de sécurité de l'Alliance des États du Sahel. Les déclarations faites au cours de l'émission en question Washington Forum faisaient partie d'une discussion ouverte destinée à informer et à engager le public sur des questions de sécurité importantes affectant du moins la région, affirme la direction de VOA. Notre objectif était d'aborder le sujet de manière équitable et impartiale. Nous regrettons donc que le CSC ne partage pas ce point de vue. Fin de citation. Au Mozambique, plus de 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et le Parlement. Cette élection se tient dans un contexte de défis économiques et d'une insurrection islamiste dans le nord qui abrite d'importants projets gaziers. Les détails avec Nani Talani.
Daniel Chiapo, 47 ans, est le favori parmi les 4 candidats en lice pour succéder au président Philippe Nyusi qui se retire après 2 mandats. Avocat de profession et ex-gouverneur de province, Chiapo est considéré comme un choix sûr pour les affaires et apporte un nouveau visage au Frelimo, le parti au pouvoir. Il affronte Venancio Mondagné, 50 ans, indépendant charismatique qui a mené une campagne vigoureuse après avoir quitté la RENAMO dont il n'a pas réussi à prendre la tête et qui attire de grandes foules. Il y a aussi Ossoufo Nomadé, un ancien commandant rebelle de la RENAMO, et Lutero Simongo, le leader d'un petit parti d'opposition. Le dépouillement commence après la fermeture des bureaux de vote à 18h locales, mais les résultats officiels pourraient prendre jusqu'à 2 semaines. La pauvreté et l'insurrection islamiste dans la province de Cabo Delgado demeurent les soucis majeurs des Mozambicains.
Au Kenya, le Sénat a lancé ce matin l'examen de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Les débats auront lieu la semaine prochaine. Plus de détails avec Clément Régibou.
La Chambre haute du Parlement a placé la motion de destitution du vice-président à l'ordre du jour ce matin, quelques heures à peine après un vote de l'Assemblée nationale. Ces premiers débats au Sénat se sont clos à la mi-journée et se poursuivront les 16 et 17 octobre. Un vote suivra où 45 voix sur 68 seront nécessaires pour que le texte soit adopté. Hier soir, les députés ont approuvé par 282 voix sur 349 une motion demandant la destitution de Rigathi Gachagua pour détournement de fonds publics, conflit d'intérêts, abus de pouvoir notamment. Cette procédure contre le numéro 2 de l'État, initiée le 1er octobre par un député de la coalition présidentielle, est l'apogée de plusieurs mois de conflit entre le président William Ruto et son adjoint. Le vice-président clame son innocence et a promis de se battre jusqu'au bout, y compris en justice, contre une procédure qu'il a qualifiée de complot visant à le chasser du pouvoir. il a exclu de démissionner. En cas d'adoption de la motion, il deviendrait le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure instaurée dans la Constitution de 2010.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté aujourd'hui pour une prolongation de ses investigations sur de présumées violations des droits lors de la guerre qui fait rage au Soudan, malgré les objections des autorités de Khartoum. 23 membres du Conseil, qui en compte 47, se sont prononcés en faveur d'une prolongation d'une année supplémentaire de la mission indépendante et internationale d'enquête. Il y a eu 12 votes contre et 12 abstentions. Au Cameroun, un accident de la circulation survenu ce mercredi près de Sangbélima, dans le sud du pays, a causé la mort d'au moins 15 personnes et fait 10 blessés, a annoncé la radio publique CRTV. Le préfet Daniel Owono a confirmé sur cette radio les circonstances de la collision, l'état de somnolence du conducteur du camion, en faisant état de 15 corps déposés à la morgue. Au Mali, un important convoi de l'armée malienne parti il y a une dizaine de jours en direction de Tinzawatène est revenu à son point de départ sans livrer bataille, ont indiqué aujourd'hui des sources dans les différents camps. Les forces maliennes ont indiqué lundi dans un communiqué avoir récupéré les dépouilles de leurs frères d'armes tombés en juillet près de Tinzawatène. Les rebelles qui ont suivi l'avancée du convoi de l'armée en communiquant sur les réseaux sociaux se sont félicités de ce retour forcé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a mené d'intenses bombardements sur le nord de la bande de Gaza, où elle poursuit des opérations au sol, a affirmé aujourd'hui la défense civile du territoire. Le point avec Rosine Monizero.
Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont eu mercredi un appel téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a fait savoir la Maison-Blanche. Cet appel, dont un compte-rendu sera publié plus tard par Washington, était très attendu. Le président américain et le dirigeant israélien ne s'étaient pas parlé depuis cette semaine, alors qu'Israël intensifie ses opérations contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah libanais. Les opérations en cours visant Jabalia ont fait un grand nombre de morts, a affirmé Ahmad Al-Kalout, directeur de la défense civile du nord de Gaza. Dimanche, l'armée israélienne a annoncé encercler la zone de Jabalia et appeler à de nouvelles évacuations du secteur mardi, disant que le Hamas cherchait à reconstituer ses capacités. Pour sa part, le Hezbollah affirme que des combats sont en cours contre des soldats israéliens dans le sud du Liban, où Israël a étendu son offensive terrestre. Le mouvement chiite a assuré plus tôt avoir repoussé à deux reprises des soldats israéliens qui tentaient d'entrer dans le sud du Liban.
La conférence internationale consacrée au Liban, voulue par Emmanuel Macron, le chef de l'État français, se tiendra le 24 octobre pour mobiliser la communauté internationale au secours de la population et pour soutenir les institutions du pays. Cette conférence ministérielle réunira les États partenaires du Liban, les Nations Unies, l'Union européenne et les organisations internationales, régionales et de la société civile, a précisé le Quai d'Orsay dans un communiqué. Après avoir affaibli le Hamas, dont l'attaque d'une ampleur inédite le 7 octobre 2023 sur le sol israélien a déclenché des hostilités meurtrières dans la bande de Gaza, Israël mène désormais une guerre ouverte au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, un allié du mouvement islamiste palestinien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aujourd'hui en Croatie pour le troisième sommet entre l'Ukraine et les pays de l'Europe du Sud-Est. L'Ukraine a précisé le dirigeant en profitera pour discuter d'une réponse commune aux défis sécuritaires et aux efforts internationaux visant à mettre en œuvre le plan de paix de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky entend aussi aborder l'adhésion de son pays à l'Union européenne et à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et puis la Floride est sur le qui-vive avant l'arrivée de l'ouragan Milton, repassé en catégorie maximale, qui continue de se rapprocher de la péninsule à l'est du golfe du Mexique, où il doit toucher terre cette nuit. Nathalie Barge.
Milton est repassé mardi en catégorie 5 après avoir été rétrogradé en catégorie 4. L'ouragan va toucher la région de Tampa sur la côte ouest de Floride avec des vents pouvant atteindre 260 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans, qui a appelé à accélérer les préparatifs et les évacuations. Des générateurs, de la nourriture, de l'eau et des bâches ont été distribués. De nombreux habitants prévoient encore de quitter leurs habitations population tandis que d'autres se mettent à l'abri. Les compagnies aériennes ont mis en place des vols supplémentaires au départ de Tampa, Orlando, Fort Myers et Sarasota. Les voies express sont encombrées et des stations-service sont en rupture de carburant. Cela pourrait être la pire tempête en Floride en un siècle, a estimé hier le président Joe Biden. Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort, a-t-il lancé à l'intention des habitants du troisième état le plus peuplé du pays. La Maison-Blanche a annoncé que Joe Biden a renoncé à se rendre, comme prévu en fin de semaine, en Allemagne et en Angola.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
L'exploitation illégale de l'or ou le galamsi explose au Ghana, alimentée par la hausse des prix mondiaux. Elle génère des revenus pour les mineurs, mais prive le pays de recettes fiscales, car la majorité de l'or est exportée clandestinement avec 70 à 80% des petites mines non licenciées. L'activité cause aussi de graves problèmes de santé et de pollution. De nombreux Ghanéens sont mécontents face à l'inefficacité des mesures de lutte prises par le gouvernement. Ambatovi, société malgache d'extraction de nickel et de cobalt, a fermé son pipeline de minerais suite à des dommages survenus le 25 septembre. Cet incident pourrait baisser l'approvisionnement en cobalt si l'arrêt durait plus de 2 mois. Ambatovi prévoit une production annuelle de 35 000 tonnes à Madagascar. Pour terminer, la Banque mondiale a approuvé une nouvelle note d'engagement pays pour soutenir les besoins de développement immédiat du Zimbabwe en 2025-2026. Elle s'articule autour de la création d'un environnement favorable à la croissance du secteur privé. Le deuxième pilier vise à améliorer les services sociaux en faveur des pauvres, en renforçant l'autonomie des femmes et en garantissant une assistance efficace aux ménages vulnérables, tout en soutenant la transition énergétique.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Diego V, c'est une exposition immersive dédiée à Maradona à Barcelone.
La légende argentine du football Diego Maradona prend vie dans une exposition immersive à Barcelone qui propose de revivre le but du siècle en réalité virtuelle, une reconstitution de sa maison d'enfance à Villa Fiorito ou encore un hologramme de Maradona lui-même. Après être passé par Naples et Tel Aviv, l'exposition pose ses valises pendant les 2 prochains mois dans la ville espagnole. Les visiteurs sont accueillis dans l'exposition répartie sur 2000 mètres carrés par un hologramme d'un jeune Maradona arborant le maillot de Boca Junior, le club avec lequel il a remporté son seul titre de champion d'Argentine. Après s'être acquitté d'un billet d'entrée à 21 euros, 12 pour les enfants, les fans peuvent tirer un pénalty à la manière du joueur ou se faire prendre en photo en recréant son but notoire, baptisé Main de Dieu, lors de la victoire de 1-2 l'Argentine contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Dans son pays natal, Maradona est largement considéré comme le plus grand footballeur de l'histoire et acquis le statut d'icône.
Ligue des Nations, cascade de forfaits chez les stars européennes.
Outre le français Kylian Mbappé et l'espagnol Rodri, de nombreuses stars européennes blessées manqueront à l'appel de leur sélection lors de la 3e journée de Ligue des Nations cette semaine, sur fond de débat à propos des cadences infernales imposées par le calendrier. Nico Williams est le dernier joueur en date d'une longue série de forfaits. L'ailier espagnol, révélation du dernier Euro avec son comparse Lamine Yamal, blessé au bas du dos, ne participera pas aux 2 matchs de la Roja samedi face au Danemark et contre la Serbie 3 jours plus tard. La France est sans N'Golo Kanté, Dayot Upamecano, tous 2 blessés, sans enfin Antoine Griezmann, fraîchement retraité des Bleus. Les vice-champions du monde sont en quête de leader face à Israël et en Hongrie et contre la Belgique. Les Diables Rouges joueront leur première rencontre à Rome, en Italie, première du groupe 2. demain jeudi sans Kevin De Bruyne, blessé également et dont l'avenir international reste incertain, et sans Romelu Lukaku, leur meilleur buteur, laissé au repos à Naples, son nouveau club.
Un Népalais de 18 ans devient le plus jeune conquérant des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète.
Un alpiniste népalais de 18 ans est devenu ce mercredi le plus jeune grimpeur de l'histoire à escalader les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le corps d'une étudiante congolaise qui fréquentait l'université de Trois-Rivières au Québec a été retrouvé hier sans vie dans une rivière près d'une semaine après sa disparition. La disparition d'Alexandra Lumbayi, 21 ans, a suscité une vive émotion dans la communauté africaine de la ville. Eddy Sango a joint à Québec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Josca Kabongo Ngoy.
Nous avons été saisis de cette affaire le dimanche 6 octobre à 18h, aussitôt que nous avons eu connaissance de cette affaire. Nous nous sommes engagés par des voies diplomatiques pour essayer de pouvoir faire ce qui est mieux, de manière à ce que la vérité soit connue et que la personne soit retrouvée. Mais malheureusement, elle a été retrouvée, mais avec un corps sans vie.
Monsieur l'ambassadeur, alors, qu'est-ce qui est fait maintenant? Est-ce qu'il y a une autopsie qui est faite?
Ce qui est fait maintenant, nous avons demandé aux autorités compétentes du Canada, que je remercie par votre intermédiaire, de pouvoir procéder à l'autopsie. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais nous avons aussi demandé à ce que qu'on puisse associer la police scientifique. Et cela pourra nous permettre de comprendre les circonstances de cette disparition qui nous paraît un peu floue.
Justement, à ce sujet, la communauté, non pas seulement congolaise, mais africaine, est en train de bouger. Il parle de l'assistance, la non-assistance à la personne en danger parce qu'il y aurait eu de... En fait, qu'est-ce que vous savez par rapport à ceux qui travaillent à ces parcs
Pour l'instant, souffrez que je ne puisse pas vous en dire trop parce que nous sommes dans une étape où les enquêtes sont en cours. Je crois qu'au moment opportun, nous allons, si cela sera possible, donc nous allons, révéler ce qui s'était réellement passé. Je me suis rendu personnellement moi-même sur les sites. J'ai trouvé que c'est un site qui, avant d'entrer, est soumis à un paiement. Et c'est un site qui permet aux gens de venir se détendre ou peut-être méditer, mais aussi un site où les gens peuvent venir pour organiser de diverses manifestations. Notre fille s'est retrouvée là-bas. Dans quelles circonstances? Pour quelles fins? Là, nous n'avons pas encore de réponse.
Josca Kabongo Ngoy, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada. Au Burkina Faso, deux jeunes ingénieurs ont mis sur le marché depuis quelques années la Terbox. Il s'agit d'une boîte à outils électriques ayant un suivi à distance et qui permet de fournir de l'électricité solaire aux ménages peu nantis ou vivants dans les zones rurales. Reportage de Gilles Dasda depuis Ouagadougou.
Dans les locaux de l'entreprise Alliot System, les techniciens sont à la tâche pour finir le montage d'appareils appelés Terrebox. Ce sont des box conçues pour fournir les ménages en électricité solaire, selon Abdallah Dissa, directeur général de Alliot System.
C'est la box Terrebox qui inclut donc l'électronique, le système de contrôle, sur des paiements à Paygo, la communication à distance, et voilà les différentes connectiques, pour aller donc distribuer l'énergie dans la maison, et aussi le panneau solaire qui va donc produire l'énergie journalière, stocker dans la batterie à l'intérieur et pouvoir aussi injecter au cours de la journée.
La box est fournie avec un ensemble de matériel, dont une radio, une télé, un ventilateur et des ampoules.
On s'est dit qu'au minimum, quand on a de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait d'abord avec il faut de l'éclairage pour la sécurité du foyer, permettre aux élèves d'étudier. Suffisamment d'éclairage, parce que ce n'est pas seulement pour les élèves, la ventilation que j'avais oubliée, qui permet donc d'avoir, voilà, dans nos pays chauds, là, d'avoir quand même quelque chose pour un confort minimal. Donc voilà, l'éclairage, la ventilation, la télé, une torche aussi, et puis une radio. Enfin, tous ces produits sont inclus dans ce kit-là.
Nous avons rencontré cette cliente. Abibou Zumbi habite à Tabtenga, une zone d'habitat spontané sans électricité dans la périphérie de Ouaga.
La box a beaucoup d'avantages. Depuis que je l'ai, nous ne dormons plus dans le noir. On a désormais de la lumière. Je n'ai pas eu de problème avec le matériel, hormis mon poste radio qui était tombé en panne. Mais ils sont venus le réparer. Mes enfants, eux, peuvent suivre la télé à tout moment. Ça a été très bénéfique pour moi.
Noé Nabari lui a installé la télébox dans son commerce pendant la période de délestage qu'a vécu Ouagadougou. Et depuis, sa boutique ne fonctionne que par ce système.
J'ai eu la box pendant la crise de l'électricité. Quand il y avait délestage, mes voisins avaient des problèmes, mais pas moi. Ma boutique restait éclairée. Je regarde la télé, mon ventilateur fonctionnait normalement. Jusqu'ici, je n'ai pas de problème. J'espère avoir les moyens pour prendre une box plus puissante. Avec mes calculs, ça me revient moins cher que les factures d'électricité classiques. La méthode de paiement me va bien et bientôt j'aurai fini et le matériel sera à moi définitivement.
Téribox a été conçu en 2018 par deux jeunes ingénieurs burkinabés avec pour objectif de fournir de l'électricité solaire dans les zones non électrifiées. Téribox a reçu la certification Virasol, ce qui signifie que le produit répond aux normes internationales. Selon Abdallah Dissa, plus de 30 000 box ont déjà été vendues au Burkina et dans 5 autres pays de la sous-région ouest africaine. Kildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Soudan, la plupart des hôpitaux de la région de Khartoum ont été détruits ou évacués alors que les combats dans la capitale se poursuivent. Les organisations de défense des droits humains accusent de crimes de guerre les responsables de cette destruction. Reportage de Henry Wilkins, le récit est d'Eric Manirakiza.
Nida Abdelmonim Abdelrahim a été blessé lors des tirs croisés dans la région de Khartoum début septembre.
Les balles étaient partout sur mon corps, mes mains, mon ventre et mes jambes. J'ai perdu beaucoup de sang. Mes deux jambes ont été touchées. Elles sont toutes les deux cassées. De plus, un orteil a été amputé sur ce pied et deux autres sur l'autre pied.
Et les patientes à l'hôpital Al-Nao, l'un des rares établissements encore en activité à Khartoum, une capitale dévastée par la guerre civile au Soudan. Selon l'OMS, seuls 16% des structures de soins primaires étaient encore fonctionnelles dans la région de Khartoum en juillet, citant les autorités sanitaires locales. Les avocats spécialisés en droits humains affirmaient que les deux parties au conflit, les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide, sont responsables de la destruction des hôpitaux. Christian DeVos, professeur adjoint à la City University of New York School of Law, suit de près la situation au Soudan.
Les hôpitaux ont fait l'objet de bombardements aveugles. Il existe des raisons de croire que cela a été perpétré tant par les forces des FCR que par les forces des FAS.
Lors d'un récent voyage à Omdurman, de l'autre côté du Nil, à partir de Khartoum, VOA a visité l'hôpital des Chinois qui a été saccagé depuis le début de la guerre. Cet hôpital est sous le contrôle de l'armée soudanaise. Ils affirment avoir repris le contrôle aux forces paramilitaires des FSR en février de cette année. Il n'est cependant pas clair quel camp est responsable de la destruction de l'hôpital. Les groupes de défense des droits affirmaient que l'utilisation militaire des hôpitaux est interdite par le droit international. Cependant, Selon Laetitia Bader de Human Rights Watch, ce ne sont pas les forces gouvernementales qui sont principalement responsables de l'occupation illégale des hôpitaux.
En ce qui concerne l'occupation des hôpitaux, cela relève beaucoup plus des FSR.
Laetitia Bader déclare que cette action était révélatrice du mépris manifesté à l'égard des hôpitaux au Soudan, ce qui pourrait constituer un crime de guerre. Dans un communiqué, les FSR ont déclaré à VOA que les forces de soutien rapide n'ont ni occupé ni détruit aucun hôpital. Ces accusations sont totalement fausses, ajoute le communiqué, imputant les violations aux forces gouvernementales.
L'ancien président Donald Trump et nombre de ses partisans affirment que les élections de 2020 ont été truquées et préviennent qu'il pourrait en être de même cette année. Les responsables électoraux démocrates et républicains du Michigan contestent ces affirmations et s'efforcent d'assurer aux Américains que leur vote est sécurisé. Du Michigan, le reportage de Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, est relaté par Michel Joseph.
Ça s'est passé à Détroit, dans le Michigan, le jour de l'élection en 2020. Les partisans de Donald Trump, alimentés par ces allégations infondées de fraude électorale, ont fait pression sur les fonctionnaires pour qu'ils cessent de compter les votes. De nombreux partisans de Trump, dans le Michigan, s'inquiètent de la fraude lors des prochaines élections. Marvin Minton, partisan de Trump.
En ce moment, notre gouvernement est remis en question à tous les points de vue. J'aimerais pouvoir dire le contraire, mais ce n'est pas ce qui ressent l'Amérique. Nous ne faisons confiance à personne.
Angelica Kando, partisane de Trump.
Un cas, un seul cas à remettre en cause tout le système.
Les allégations selon lesquelles l'élection de 2020 a été truquée ont été démenties à plusieurs reprises par des tribunaux américains. Mais la remise en cause de l'intégrité des élections a gagné du terrain dans le camp républicain, plus enclin à faire confiance à Trump qu'à des résultats certifiés par les autorités locales. Les responsables des États où se déroulent les élections s'efforcent d'assurer aux électeurs la sécurité du processus électoral et estiment que la désinformation peut être dangereuse. Jonathan Brater, directeur du bureau des élections du Michigan.
Ils peuvent dans certains cas conduire à des menaces à l'encontre du personnel électoral, voire pire. Mais même si cela n'aboutit pas à une quelconque violence physique, cela mine la confiance à long terme dans le système électoral, ce qui est mauvais pour notre République et notre démocratie.
Dans de nombreux États, les républicains soutiennent les efforts visant à garantir aux électeurs la sécurité des élections, y compris Justin Roebuck, un agent électoral républicain du comté d'Ottawa, dans le Michigan. Selon lui, il s'agit d'une bataille difficile.
Nos dirigeants politiques à tous les niveaux doivent rechercher des faits et des données. Et je pense que tant que cela ne sera pas le cas, nous aurons un problème de confiance dans le processus.
Dans le Michigan, des loyalistes de Trump ont déjà poursuivi la secrétaire d'État, Jocelyn Benson, une démocrate, à propos des lignes directrices relatives au traitement des bulletins de vote par correspondance et la liste d'inscription des électeurs. Peter Hoekstra, président du Parti républicain du Michigan.
Si Jocelyn Benson ne répond pas aux exigences de la loi, nous l'assignerons en justice pour que les tribunaux l'obligent à le faire.
Jocelyn Benson a estimé qu'il s'agissait d'une stratégie de campagne républicaine.
En général, nous constatons que les poursuites se font passer pour une stratégie juridique alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie de relations publiques visant à diffuser des informations erronées ou à semer le doute sur nos élections.
Les républicains et les démocrates ont intenté des actions en justice liées aux élections dans plusieurs États, ce qui pourrait se traduire par un chaos lors des élections de novembre. Kim Wyman, chargé de mission au Bipartisan Policy Center Election Project.
Tout type de contestation juridique intervenant si près d'une élection est généralement le fait d'avocats qui mettent en place une garantie au cas où ils ne gagneraient pas dans un État ou n'obtiendraient pas le résultat qu'ils souhaitent, ce qui leur donne la possibilité de contester l'élection a posteriori.
Il existe d'autres risques potentiels, notamment des efforts fournis par des fonctionnaires du comté qui soutiennent Trump pour retarder la certification des élections.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. À la mise en onde, Fermin Koyaweda. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.